Haute fréquence.
La religion dans tous ses états.
On parle cinéma ce soir avec un film qui sort mercredi prochain sur les écrans romans. C'est Carole Pirker qui nous propose une immersion dans le film intitulé Los Domingos, ce qui signifie « les dimanches » en français. La réalisatrice Alauda Ruiz de Azua est une cinéaste née au Pays Basque, où se déroule d'ailleurs l'intrigue de ce film, qui a remporté, on peut le mentionner, en septembre dernier, le premier prix au Festival de cinéma de San Sebastián. Alors, Los Domingos, c'est l'histoire d'Ainara, une jeune fille de 17 ans, élève d'un lycée catholique. Elle s'apprête à passer son bac et à choisir son futur universitaire lorsqu'elle annonce à sa famille et à la surprise générale qu'elle veut intégrer une communauté de sœurs dans un couvent pour devenir nonne. C'est ce choc provoqué dans la famille qui a notamment intéressé Carole Pirker. Elle a demandé à la sœur Isabelle Donegani de la Pelouse AB de visionner ce film et elle en a discuté avec elle. Dans le détail, la jeune héroïne Ainara vit dans une famille où les membres n'ont pas tous les mêmes croyances. Son père, plus traditionnel, ne va rien faire pour la retenir, mais sa tante, qui est athée, est persuadée qu'elle se trompe. Alors quand elle apprend que sa nièce mène depuis quelques mois déjà ce processus de discernement et qu'elle veut retourner au couvent pour passer du temps avec les sœurs, elle tente d'interroger ce sentiment d'amour qu'Ainara dit ressentir pour Dieu. Je vous propose d'entrer dans le film avec ce premier extrait.
Moi, je crois que ce sentiment que tu décris, d'une telle intensité, peut être spirituel. Mais ça peut aussi être autre chose, et tu confonds.
Mais non,
c'est facile de confondre.
Je ne confonds rien, ma tante. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur, on le ressent. C'est un amour très beau et sincère qui te fait te sentir très bien. On ne peut pas confondre.
C'est vrai que l'amour est un sentiment puissant. Mais justement, s'il est véritable, il ne devrait pas disparaître du jour au lendemain. Il pourrait attendre. Tu as 17 ans, Ainara, mais tu dois aller à l'université, rencontrer plein de gens. Tu dois voyager, explorer et expérimenter plein de choses. Tu as tout devant toi.
Une jeune fille qui a tout devant elle, sœur Isabelle Donegan. Je vous ai rejoint ici à la maison de la Pelouse au-dessus de B. Vous vivez ici, au sein de la communauté des sœurs de Saint-Maurice. Ce film, vous l'avez visionné. Et dans cette scène, la tante d'Ainara l'invite à différer sa décision d'entrer dans les ordres. Vous comprenez sa réaction ?
Oui, je la comprends très bien. Je pense que les spectateurs qui vont voir ce film vont avoir la même réaction que j'ai eue la première fois qu'on m'avait dit que cette jeune qui entrait avait 17 ans. Spontanément, je vous dis, mais c'est trop tôt. D'aller vivre un temps de discernement, une semaine dans une communauté, ça n'engage à rien. Elle semble être décidée à plus que ça. Mais effectivement, tôt, la tante lui dit très bien dans le film. Elle lui dit, t'as 17 ans, t'as la vie qui est devant toi, tout est ouvert. Tu as expérimenté d'autres relations, un autre monde, voyagé, étudié. Laissez la vie te former, quoi.
Vous m'aviez dit, dans une première réaction, qu'elle est beaucoup trop jeune pour prendre une décision aussi radicale. Mais vous avez bel et bien changé d'avis sur la question.
Oui, parce que c'est une fille qui est mature. Il faut dire que c'est une orpheline qui est un peu la deux petites sœurs. Elle a perdu sa mère jeune, donc elle a déjà été éprouvée dans son existence. Et puis elle a une sorte d'axe intérieur. Tout le monde dit d'ailleurs qu'elle est très intelligente dans son lycée, qu'elle va pouvoir faire des études brillantes. Enfin, elle a quelque chose de quelqu'un de plus âgé que 17 ans quand même.
Alors, pour Ainara, c'est 17 ans. Et vous, Isabelle Donegan, à quel âge est-ce que vous avez décidé de vous engager dans la vie religieuse ?
Alors, décider, ça s'est fait par étapes, mais j'étais aussi au lycée. J'étais à peu près dans ces âges, 17-19 ans, lorsque je suis aussi venu faire une retraite, assis à la pelouse. Donc, je suis rentré très, très vite après mes études universitaires, mais je suis rentré à 27 ans. Donc, il y a eu 10 ans entre le premier appel, un discernement qui a été vécu sur des mois aussi, et puis le moment où je suis rentré ici à la pelouse.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rejoindre une communauté religieuse ?
Mes parents notamment sont décédés, donc ils m'écoutent de l'au-delà. J'aurais aimé pouvoir parler à mes parents, peut-être à mon frère notamment, à ma grand-mère, avec la même sincérité, innocence et justesse que le fait la jeune femme dans le film, c'est-à-dire de pouvoir exprimer ce qu'elle vivait intérieurement, c'est-à-dire cet amour du Seigneur, cet appel, puis tout d'un coup d'avoir fait des rencontres, d'avoir été dans une communauté, et puis de sentir un appel à être là, pour le Seigneur, à cet endroit, avec ces personnes-là.
Et comment votre propre famille a réagi quand vous lui avez annoncé votre décision de rejoindre cette communauté ici, à La Pelouse ?
Mes parents très très mal. Mon frère avec un peu, sans trop s'exprimer, moi je m'exprimais peu aussi, mais de manière respectueuse, je dirais. Et ma grand-mère, ma grand-mère qui était pratiquante, qui est une femme avec qui que j'accompagnais à l'église, voilà, j'ai eu une pratique qui a été quand même beaucoup portée par la figure de ma grand-mère, je dirais, maternelle. Et elle m'a tout de suite dit, pourvu que tu sois heureuse, c'est ce qui compte pour moi. Voilà, donc c'est celle vraiment qui m'a donné l'autorisation plénière dès le premier instant, c'est ma grand-mère.
Parce que pour vos parents, c'était moins évident ?
C'était tout sauf évident.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ma mère, elle était tellement en désarroi qu'elle ne sentait plus le sol sous ses pieds, qu'elle avait failli être percutée par une voiture. Donc ma mère a perdu pied et puis elle n'a jamais été agressive, mais elle a été très souffrante. Tandis que mon père, lui, a carrément... Il n'a carrément pas voulu entendre parler, donc ça a été très très dur avec lui.
Mais ça veut dire concrètement, ça a occasionné une rupture avec vos parents ?
Une rupture, non, mais ça veut dire que j'ai enduré une partie de mes études de théologie en sachant que moi, mon horizon, c'était d'entrer à La Pelouse, alors que pour eux, chaque année qui passait, c'était long, et puis ça allait non pas vers un mariage, des petits-enfants, et puis tout ce qu'ils auraient rêvé pour moi. Pour eux, ça ne faisait pas partie de leur prévision, pas du tout. C'est très proche de ce qu'on sent comme ébranlement familial dans le film, là. Oui, j'ai vécu quelque chose d'analogue.
Isabelle de Negani, vous me le disiez, c'est très rare, au fond, des jeunes qui se lancent dans une telle démarche.
Je pense qu'il y a des jeunes qui s'interrogent spirituellement, qui font des quêtes, qui vont sonder un peu ces mystères intérieurs à travers d'autres formes de quêtes. Dans le christianisme ou dans l'hindouisme ou le bouddhisme ou dans l'humanitaire, je ne sais pas, mais des questions fondamentales qui se tissent à travers ce film, probablement qu'un jeune d'aujourd'hui se les pose très jeune ou plus tard dans sa vie, quand il rencontrera peut-être une lumière qui l'initiera vers ces dimensions-là ou parce qu'il traversera l'abîme et les épreuves. Mais la question du sens de la vie, d'où je viens, où vais-je aller, les questions fondamentales, elles seront là. Alors après, se les poser dans une vie monastique consacrée, comme le cas d'Ayn Arendt, ça concerne aujourd'hui peu de personnes. Souvent, les entrées, même au monastère, sont plus tardives, on ne parle pas de 17 ans.
Comment est-ce que vous définiriez le cheminement que fait cette famille après l'annonce de cette jeune Ayn Arendt d'entrer dans les ordres ?
Il y a différents personnages dans la famille. Il y a le père, il y a la grand-mère encore, qui est souvent chez eux, qui fait des excellents repas. Il y a surtout le personnage de la tante, qui est intéressant, qui a vraiment pris soin et investi beaucoup d'affection et d'amour dans sa nièce. Il y a l'ami proche. Donc chacun va être amené à se questionner sur ce choix et... Finalement, il va y avoir un discernement vocationnel au sens large. Donc chacun va être questionné là où il en est dans sa propre existence. Et chacun va être contraint par ce choix radical à réenvisager le pourquoi, le comment de ses propres relations, conjugales ou amicales. Donc c'est extrêmement habile de la part de la réalisatrice qui se dit athée d'avoir si bien perçu et si bien nommé les enjeux de ces crises que chacun va vivre successivement.
Alors on le voit, dans le film, la décision d'Ayn Arendt représente un déchirement pour sa famille. Isabelle de Negani, dans cet extrait que je vous propose maintenant, le père d'Ayn Arendt est allé discuter avec une sœur du couvent et le père Tchema, le directeur spirituel d'Ayn Arendt. Il a donné son feu vert à un séjour chez les sœurs du couvent. Là, on est chez lui, à la cuisine. Et sa sœur Maïté, la tante de la jeune Ayn Arendt, veut savoir comment s'est passée cette rencontre. On l'écoute.
Bueno, a ver, ¿y qué te han dicho?
Pues que no, depende de ellos.
Bon, et puis alors, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Que ça dépend pas d'eux. Ayn Arendt y réfléchit, elle est en plein discernement, comme on dit.
Elle ne réfléchit pas, elle attend que Dieu lui parle. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Et pendant ce temps, l'université, ça l'intéresse pas. Tu l'as motivé pour aller à la fac? Tu l'as expliqué que se cloîtrer, c'est une folie.
Et si elle est ce qui la fait feliz? Donc, tu ne te guste?
Et si ça la rend heureuse, même si ça te déplaît?
Mais comment elle saurait ce qui la rend heureuse, alors qu'elle parle à ces gens depuis ses 11 ans, Iñaki?
C'est pas une secte. T'as beau t'obstiner, c'en est pas une.
Et pourquoi tu l'emmènes pas voir un psy?
Mais elle est pas folle. Ce qui va se passer, j'en ai aucune idée. Mais c'est moi le père, et c'est moi qui décide. Alors, on attend et on respecte, d'accord? Et je te demande surtout d'arrêter de foutre le bazar.
Arrête de foutre le bazar. Isabelle Donegani, durant tout le film, hein, Maïté va se confronter à son frère Iñaki, le père d'Ainara. Et les tensions vont aller crescendo. Au fond, la décision de cette jeune adolescente va faire voler en éclats le fragile équilibre de cette famille.
Oui, bien sûr. C'est une relation entre frères et sœurs, enfin, le père et la tante qui se jouent là. Et dans leur dialogue, souvent, dans la cuisine, ou quand ils se parlent, il s'agit de savoir comment chacun des deux juge et aperçoit la situation qu'ils ont à traverser, quoi. C'est une véritable épreuve pour eux, hein. Le père, il a des problèmes financiers, il a ouvert un restaurant, donc une fille qui partirait au couvent, est-ce que ça va lui coûter, même pour une expérience d'une semaine? Donc il est assez attaché à l'argent, il a un peu peur que ça lui coûte. Si la tante lui dit qu'il faudrait l'envoyer à l'étranger pour se changer les idées, aller à Londres, etc. Et le père, au début, il est un peu falot comme ça. Et là, dans cette scène que vous avez choisie, il occupe une place paternelle avec une parole qui est tranchante, qui tient tête à cette sœur désemparée et puis trop engagée probablement affectivement dans cette relation. Et le père lui dira « tu t'obstines en fait ». Alors que la tante se moque un peu en disant « elle attend que Dieu lui parle, elle ne réfléchit pas, elle est folle, il faut l'amener voir un psy, elle a un problème, enfin, est-ce que c'est de la folie? Est-ce qu'elle est en train d'une secte ?» Le père là, il prend une position où elle dit « si elle est heureuse, moi je ne vais pas m'y opposer ». Et donc, t'as beau t'obstiner, elle n'est pas folle. Non, c'est une vocation. Il distingue la folie de la vocation.
Mais on est d'accord que le cadre dans lequel vous vivez depuis 37 ans au sein de cette communauté, des sœurs ici à La Pelouse, est très différent de celui de ces sœurs Bettinas dont parle le film, qui sont cloîtrées.
Oui, alors nous, on n'est pas contemplatifs précisément, même si on peut dans la contemplation, mais on est des sœurs apostoliques, donc actives. Professionnelle dans le monde, en plein monde. Mais la principale différence, je pense, moi, c'est cette vie en communauté, mais sur un petit territoire. Et c'est à vie qu'on s'engage dans un endroit, un monastère précis, et qu'on y reste. Dans le cas d'Ainara, cette jeune femme, elle fait un choix radical, c'est-à-dire du célibat, de vivre en communauté, et puis de vivre derrière des murs, c'est-à-dire que c'est un choix aussi de retrait du monde.
Et vous le disiez, pour ces sœurs cloîtrées, il faut aussi avoir une très forte stabilité psychique pour tenir dans la durée.
Ah, je pense pour pas devenir folle ou pour pas étriper sa consœur, parce que c'est ça, hein, c'est le vis-à-vis quotidien entre femmes, ça veut dire quand même que ça peut être très violent. Mais effectivement, il faut pouvoir assumer cette fréquentation au quotidien, dans un petit espace, en voulant vivre la même dynamique, en voulant prier ensemble, manger ensemble, se ressourcer ensemble et faire silence ensemble, c'est un grand défi.
Au début du film, hein, quand Ainara demande à son père si elle peut retourner au couvent des Bettinas pour y passer plus de temps, il lui dit que ça le dépasse qu'elle veuille, je le cite, s'enfermer avec des vieilles. Mais plus tard, quand il en discute avec une de ses anciennes professeurs de lycée et avec le jeune aumônier, le père Tchema, qui accompagne Ainara dans son processus de discernement, le père leur donne son accord et il le fait quand il apprend que le séjour est gratuit. Est-ce que l'argent joue un rôle aussi dans sa décision?
Oui, au départ, on le trouve un peu trop attaché à ses sous. Mais à la fin, progressivement, ce père va avoir une étoffe paternelle qui va dépasser ce simple niveau-là.
La jeune Ainara, on a aussi le sentiment dans cette configuration familiale qu'elle n'a pas vraiment sa place.
Oui, depuis le début, quand on la voit revenir de sa retraite avec le lycée au couvent pour quelques jours, elle rejoint l'appartement familial et c'est la grand-mère qui est là, il y a les deux petites sœurs. Le papa ne va pas rentrer, c'est elle qui range la vaisselle, qui met au lit ses sœurs, qui s'occupe d'elle au matin. Donc elle a une place, mais c'est peut-être affectivement, c'est bien l'aînée. Mais il y a peu qui s'échange au niveau verbal entre le père et la fille, au niveau affection, au niveau... C'est une famille assez froide, le père s'exprime peu. Elle, on la sent assez seule. Ce qu'on verra en tout cas, c'est quand elle va aller vivre finalement son stage dans ce couvent, il y a un véritable accueil. Bon, on ne peut pas présupposer, on n'a pas vu l'antécédent dans la famille, mais il n'y a pas la même, peut-être la même simplicité ou la même fraternité, sororité que dans le couvent, c'est vrai.
Vous écoutez Haute Fréquence et on parle ce soir du film Los Domingos qui sort mercredi en Suisse romande. Un film qui aborde le choc familial que déclenche le souhait d'une jeune fille de rejoindre les ordres. On a entendu à l'instant sœur Isabelle Donegani nous dire que la jeune Ainara va finalement partir faire son stage au couvent. Et dans l'extrait que l'on vous propose maintenant, son père l'a accompagnée sur place avec sa tante. Ils ont tous deux demandé à parler à la mère supérieure du couvent. Et Mère Isabelle, c'est son nom, a proposé à ses deux visiteurs de la tutoyer. On retrouve ici la tante d'Ainara qui s'adresse à elle.
Isabelle, tu sais qu'Ainara a perdu sa mère, non, quand elle était niña.
Isabelle, tu sais qu'Ainara a perdu sa mère petite.
Oui, je le sais.
Mi sobrina tiene una herida.
Ma nièce a une blessure. Et ça fait d'elle quelqu'un de spécial. Mais ça la rend aussi vulnérable. Elle cherche de la consolation, Isabelle. Sa quête spirituelle n'a rien d'un appel.
Maïté, ça, seul le Seigneur peut le savoir. Lui seul.
Il doit donc savoir qu'elle fréquente un garçon de la chorale. Et qu'on les a surpris en train d'avoir des rapports sexuels. Manifestement, Ainara ne pensait pas à la vie contemplative.
En fait, ma sœur veut dire qu'on craint que Ainara confonde...
Ta sœur s'exprime parfaitement.
Dans cette scène, on apprend un élément important qui peut faire basculer, au fond, le parcours de cette jeune Ainara dans son processus et sa volonté de rejoindre la vie religieuse.
Oui, bien sûr, ça peut faire complètement basculer et l'avis de la mère abbesse qui doit se prononcer sur son accueil pour un temps de probation, comme ça, au couvent. Et puis, voilà, la tante parle de rapports sexuels qu'elle a eu avec un garçon, qu'elle fréquente un garçon. Donc, ils sont tous en train de, les deux, venir dire à la mère abbesse qu'effectivement, il y a un empêchement majeur à ce que la fille fasse un stage au couvent. C'est vrai que là, effectivement, on a eu une scène précédemment dans le film où la jeune Ainara, parce qu'elle chante à la chorale, que Mickaël, elle le connaît, et qu'ils ont à répéter ensemble le concert qui approche, on les voit s'embrasser, se étreindre sur un lit, une scène qui se prolonge un peu, et où ils se dénudent en partie, et puis en fait, voilà, qu'arrive, les surprend la petite sœur, voilà. Et donc, ce qui est tragique, c'est que la tante va aller parler là à la mère abbesse de rapports sexuels, alors que dans le film, la petite sœur est arrivée. Elle a mis fin brutalement à ce qui est en train de se dérouler entre les deux jeunes.
Est-ce que c'est un moyen, de votre point de vue, pour la tante de l'empêcher de prendre cette décision ?
La tante, à mon avis, instrumentalise complètement. D'abord parce qu'elle ment, la jeune femme va dire à la mère abbesse, mais je voulais vous en parler, mais on s'est embrassé, ça n'a pas été plus loin. Et je n'ai plus revu le garçon, je n'ai pas répondu à son message. Donc, elle a consenti amoureusement à ce moment de rencontre, mais tout s'est arrêté du fait de l'arrivée de sa petite sœur. Et la tante instrumentalise ce moment intime qui n'a pas abouti en disant qu'il avait abouti en pouvant faire une cause de refus d'acceptation au monastère. Et la jeune est effondrée d'apprendre que sa tante a vendu la mèche.
Isabelle de Negani, on va écouter un dernier extrait. La grand-maman de Naira est décédée. Confronté à des difficultés financières, le père de Naira a vendu l'appartement de leur mère alors qu'il avait juré sur la tête des filles qu'il ne le ferait pas, ce qui prive au passage sa sœur Maïté de la moitié de son héritage. Elle reproche à son frère de n'avoir jamais dissuadé sa fille de faire ce choix. C'est la crise de nerfs, on écoute.
Into my arms. Por eso no le has pedido a tu hija que se quede, porque estabas intentando hacer lo correcto.
No, porque respeto su decisión.
No te he oído nunca respeto
decírselo. Et donc, t'as pas demandé à ta fille de rester.
Je respecte sa décision.
Tu lui as jamais demandé, pas une seule fois.
Les filles, on s'en va, ça suffit.
Pourquoi il n'y a qui, pourquoi tu lui as pas demandé?
Ah, c'est le comble.
Demande-lui de rester, demande-lui.
Dídeselo. ¿Por qué no te ha pedido nunca que te quedes, Ainara? ¿Por qué?
Pourquoi il t'a jamais demandé de rester? Demande-lui.
Dídeselo. Pídeselo.
Demande-lui.
Tan difícil es. Tan difícil era decir nosotros te queremos. Nosotros.
C'était si difficile de dire on t'aime. On est ta famille. Mais pas cette bande de folles! Ces menteuses! Ces arnaqueuses de merde! Elles vivent dans la peur, cachées dans ce couvent de merde! Elles y restent faute d'avoir où aller!
Ainara, te están mintiendo!
Ainara, elles te mentent! Elles te mentent depuis que tu as mis le pied dans cette école! Elles te mentent comme on leur a menti toute leur vie!
Nadie te está llamando.
Ma chérie, personne ne t'appelle! Dieu n'existe pas! Cet amour n'existe pas.
Rezaré por ti.
Je prierai pour toi. C'est la seule chose que réplique Ainara face à sa tante déchaînée.
Je prierai pour toi, pour moi, c'est la seule chose que peut dire cette fille à cette tante qui vient de lui prendre le cou. Pour la garder, on est ta famille, on t'aime. Un amour qui, progressivement, s'est révélé un amour assez possessif, finalement. Puis assez fusionnel. Et on ne sait pas si, la tenant au cou, elle veut la garder quelque part. Et la jeune fille descend lentement les mains de sa tante qui prenait le cou pour lui dire « Je m'en vais, je vais voler. Je vais voler, laisse-moi voler », ce qu'avaient dit les hommes tout au long du film. « Fous-lui la paix. » Laisse-la choisir, cette tante. On voit son désarroi qui éclate là dans cette scène finale, avec une brutalité, une violence, dire à sa nièce « Ces femmes, elles te mentent, on leur a menti, alors que c'est elles qui mentent aussi. Personne ne t'appelle, Dieu n'existe pas, cet amour n'existe pas. » C'est d'une violence inouïe.
Cette jeune fille prend quand même une décision extrême, c'est de vivre cloîtrée. À quoi ça sert de se retirer du monde ?
Ça sert là à vivre cet amour particulier qui a besoin, la mère Abbesse le dit, d'une certaine forme de retrait, d'une certaine forme de solitude, de silence, pour être en relation de communion avec son Seigneur et pour, comme on l'entend dans les prières des sœurs, porter le monde à bras-le-corps. La moniale ou le moine sont au cœur du monde, au cœur de leur retrait. Donc plus ils se retirent, moins ils s'extraient. Donc à ce moment-là, ce n'est pas un refuge, c'est le lieu de leur plus grande proximité. Mystérieuse aux yeux des hommes et aux yeux même des chrétiens que représentent les personnages du film. C'est un monde dont ils semblent ignorer tout.
Mais comment est-ce qu'on tient aussi dans la durée ? Parce qu'il est facile d'imaginer qu'on peut aussi être en proie à des doutes sur sa foi.
Oui, bien sûr. On peut être tenté et mis à l'épreuve de mille manières. Là. Une des sœurs, là, quand la jeune entre pour faire son petit stage, lui dit « Mais voilà, il y a des moments où on a envie de prendre sa valise et de partir, enfin, etc. » Bien sûr qu'on peut être tenté, puis on peut douter, parce qu'effectivement, elle est très jeune.
Alors, on ne va peut-être pas dévoiler la fin de ce film. Moi, j'aimerais qu'on parte plutôt sur la musique dans ce film. Il y a notamment ce titre « Into My Arms » de Nick Cave en version chorale. C'est un moment très fort dans la scène où Ainara et ce jeune Mikkel sont ensemble dans sa chambre. De la part de la réalisatrice, pas anodin non plus comme choix.
Oui, « Into My Arms », ça arrive comme musique de fond sur la rencontre, effectivement, où ils s'embrassent, mais ils se prennent dans les bras. Et en même temps, la chanson dit « Dans mes bras, Seigneur ». C'est une prière au Seigneur. Il y a les bras du compagnon, de la compagne, et puis en même temps, c'est une prière au Seigneur. Donc, on est constamment dans ce film, sous ces deux registres qui sont qu'un seul amour. Je trouve très, très beau que ces deux niveaux qui forment qu'un seul enjeu majeur, c'est « Comment peut-on aimer ?» sur cette terre.
Est-ce que la vie de l'Église que dépeint la réalisatrice vous paraît vraisemblable, Isabelle Donegani ?
Ah, bien sûr. Mais c'est une vie cachée. C'est la vie des monastères, donc c'est la vie du retrait, c'est la vie intérieure de l'Église, c'est l'amour du Seigneur, c'est la liturgie eucharistique. Donc c'est une partie de la... et ce n'est pas la partie visible de l'Église.
Mais elle arrive bien à dépeindre cette partie invisible, justement.
Parfaitement, parce que ce qu'il incarne, ce n'est pas une Église institution, ce n'est pas une Église non plus missionnaire qui défendrait des causes, qui va dans les marges, dans les frontières, l'Église des pauvres. On n'est pas dans cette dimension-là. C'est un point de vue d'une vocation spécifique dans l'Église qui est une parmi la multiplicité des vocations, qui est la vie contemplative cloîtrée.
Et quels sont alors les pièges qu'évite, à votre avis, ce film ?
Les pièges qu'il évite, c'est qu'il permet d'entendre qu'il est possible pour une jeune femme d'aujourd'hui d'entendre un appel, d'entendre un amour, que Dieu continue de se faire entendre au cœur des humains. Il y a tout cet enjeu quand même de la transcendance, de la présence du Seigneur dans nos vies, dans l'aujourd'hui de nos existences, que ce film incarne. Donc il évite le piège de la théorie, du blasphème, de la dérision. L'Église, on entend qu'il peut y avoir d'homosexualité entre des femmes, on entend qu'il peut y avoir de la pédophilie entre le prêtre qui embrasse la petite fille. On aurait pu partir dans beaucoup de dimensions qui sont réelles, de l'Église ou de la vie religieuse, les abus, voilà. Donc je pense que là, le film, il évite les pièges qui seraient du « il y a tout bon, tout blanc ou tout noir ». La vie monastique, c'est formidable, c'est tout rose. Non, c'est pas tout rose, c'est pas simple d'y entrer, c'est pas simple de savoir pourquoi on y entre. C'est pas simple pour les autres d'avoir affaire à quelqu'un qui fait ce choix. Parce que s'il fait ce choix, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais c'est qui cet autre qui est privilégié par rapport à un garçon, un homme, une vie de famille, la maternité, etc. Donc, je pense qu'elle a réussi, cette réalisatrice, de nous faire plonger à l'intérieur de ces dimensions très intimes, très secrète au fond de nos existences. Et là, vraiment, je crois qu'elle a évité les gros pièges dans lesquels elle aurait pu tomber.
Ce film Los Domingos, vous me le disiez, fait écho à d'autres films que vous avez vus. Lesquels ?
Ils m'ont évoqué, dans la vérité et la justesse de l'interprétation des comédiens, Des hommes et des dieux, le grand film sur les moines de Tibérine. Et puis le film Le Grand Silence, je ne sais pas si vous vous souvenez du Grand Silence, où d'un coup, un cinéaste avait pu pénétrer dans la Grande Chartreuse, qui est le lieu du silence par excellence, et on avait presque 2 heures de film, sans, je ne sais pas s'il y avait un son à part les gouttes de pluie, etc., où on mesurait ce que c'était que le retrait du monde, en ermite pratiquement.
Au final, ce film Los Domingos, qu'en avez-vous pensé ?
Quand vous m'en avez parlé la première fois en me disant 2 mots, je me suis dit attention, parce que c'est des sujets tellement délicats, un peu caricaturaux tels qu'ils sont abordés. Je veux dire, aborder une question si sensible, intérieure, intime, que la foi qu'on peut avoir dans le Seigneur, la relation aux autres, la sexualité pour une religieuse, etc., ça pouvait partir dans beaucoup de directions un peu caricaturales. Et ce film, il nous touche, il nous questionne, il nous renvoie à nos propres discernements, nos propres choix. Enfin, on voit nos propres projections portées par chaque personnage et nos propres ambivalences. Donc je pense que le spectateur, il est enrichi, qu'il sort d'un tel film. Moi, j'en suis ressorti à la fois sans parole, comme quand on est devant un grand film, et à la fois comme un film qui m'a fait revisiter une partie de ma vie, qui m'a fait me questionner, qui m'a fait envie de partager avec vous longuement. Donc c'est un film qui nous invite à parler de ces questions qui sont peut-être un peu marginales pour beaucoup, mais qui sont pour certains, c'est réel, parce qu'il y a, quelques vocations encore de ce type dans notre Église. Peu. Donc pour moi, c'est mettre en valeur aussi sur le devant de la scène la face cachée et la face mystérieuse et la face névralgique de l'Église. Donc moi, j'en ressors, en tout cas comme spectatrice, je peux pas dire comment les autres vont en ressortir, mais j'en suis ressorti comme quelqu'un qui a été nourri parce qu'il a été questionné et bousculé.
Sœur Isabelle Donegani au micro de Carole Pirker. On l'entend, ce film Los Domingos qui sort mercredi en salle l'a nourrie, l'a bousculée. Elle parlait de la face mystérieuse et cachée de l'Église. Alors est-ce qu'on sait combien de jeunes s'engagent aujourd'hui sur une telle voie ? Pour Isabelle Donegani, il peut y avoir en Suisse quelque 10 à 15 jeunes, hommes et femmes, qui sont en processus de discernement pour entrer dans un monastère. C'est peu, mais c'est sans compter leurs parents, leurs frères et sœurs ou leurs oncles et tantes. Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous pensez des réactions qu'une telle vocation peut provoquer au sein d'une famille, que ce soit celle d'Ainara dans le film ou de sœur Isabelle Donegani ? Votre avis nous intéresse. Pour nous en faire part, merci de composer le 058 134 20 20.